Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on construit en saison des pluies? Vous savez, lorsqu'il pleut, les calendriers des constructions des maisons et autres ouvrages peuvent... Le calendrier peut connaître des perturbations. D'après les architectes, une pluie peut déranger la pose d'une dalle, des pavés et autres. Alors, pendant la saison des pluies, il y a des matériaux qui ne doivent pas être mouillés. Alors, quelles sont donc les précautions à prendre lorsque l'on construit en saison des pluies? Eh bien, Deschaux Ngandou, architecte, est notre invité. Deschaux, bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors, lorsqu'on construit en saison de pluie et en saison sèche, il y a sûrement des choses à faire, des choses à ne pas faire. La pluie s'annonce déjà, la saison sèche vient de prendre fin. Alors, dites-nous des choses, quelles sont les précautions à observer pour construire lorsqu'on mène une construction pendant la saison des pluies?
Ok, merci beaucoup, Jody, pour la thématique. Je voudrais aborder le fond de ces sujets sur trois rapports fondamentaux, c'est-à-dire les rapports entre la saison des pluies et les coûts de la construction, les rapports entre la saison des pluies et la qualité de la construction, et enfin les rapports entre la saison des pluies et les temps, c'est-à-dire les timings dans la construction. Vous savez qu'il s'agisse de la saison sèche ou de la saison des pluies, les deux saisons apportent leur réalité dans ce qui concerne la construction. Alors, comme nous sommes dans la saison des pluies, il y a évidemment des réalités qui ne cadrent pas, ou plutôt qui ne contribuent pas favorablement à un bel avancement d'une construction, et c'est là aussi dans les cas de la saison sèche. C'est ainsi que, parlant de la saison des pluies, je voudrais circonscrire l'échange autour de ces trois rapports fondamentaux. Donc, je me répète, les rapports entre la saison des pluies et les coûts de la construction, les rapports entre la saison des pluies et la qualité de la construction, et les rapports entre la saison des pluies et les temps qui est alloué à une construction quelconque.
D'accord, commençons évidemment avec le premier point, les rapports entre la saison des pluies et les coûts de la construction.
Bien sûr. Vous savez, lorsqu'on parle d'une construction, je l'ai toujours dit, la construction c'est un projet. Et qui dit projet voit la qualité. Un projet suppose un coût, un projet suppose aussi un temps, parce qu'on ne peut pas construire indéfiniment. Et on ne peut pas construire en injectant des moyens sans connaître jusqu'à quel point on va s'arrêter. Et aussi, on ne peut pas construire sans pour autant s'attendre à une meilleure qualité de la construction. Alors, lorsqu'on parle de la saison des pluies et les coûts de la construction, généralement, en saison des pluies, il y a une incidence sur le coût d'une construction, parce que la plupart des matériaux de base, j'ai fait ici allusion au sable, j'ai fait allusion au moellon, j'ai fait allusion au caillasse, c'est-à-dire de toute granulométrie, la plupart de ces matériaux-là sont extraits dans les eaux, ou plutôt dans les voisinages des eaux. Donc les carrières se trouvent généralement plus proche des rivières, plus proche des fleuves. S'il faut prendre, par exemple, les cas de la ville de Kinshasa, la plupart des matériaux sont extraits autour du fleuve Congo. Alors, lorsqu'il pleut, c'est-à-dire les débits augmentent et l'accès vers ces matériaux-là commence à poser problème, ce qui fait que les rapports entre l'offre et la demande connaît une certaine inversion des valeurs. Et cela suppose que un camion de 20 tonnes, par exemple, de sable qui était acheté pour une distance donnée à 200 dollars en saison des pluies, il connaît une augmentation des prix lorsque c'est la saison des pluies. Il peut passer de 200 à 250 dollars, par exemple. Il en est de même des matériaux comme les moellons qui sont extraits dans les lits de fleuves. Alors, lorsque l'accès pose problème en saison des pluies, évidemment, il va de soi que les prix connaît aussi une augmentation des une certaine augmentation. Ce qui fait que la saison des pluies a une certaine incidence négative sur les coûts de la construction lorsque les concepteurs, ou plutôt l'architecte, a fait son évaluation. Sans tenir compte de cet aspect-là, il peut connaître un problème d'avenant, c'est-à-dire qu'il faut il y a un réajustement des prix pour pouvoir finir les projets. Et si le client n'est pas préparé d'avance, ça provoque généralement des discussions stériles qui n'arrivent pas à un compromis favorable pour l'un ou pour l'autre.
Mais est-ce qu'on peut dire aussi que le coût du ciment, des sacs de ciment varie en fonction des saisons ou pas?
Non, je n'ai pas cité les ciments parce que les ciments n'est pas un élément qui a rapport avec la saison des pluies ou bien la saison des pluies. Les ciments, c'est un produit manufacturé, il est acheté dans des dépôts de ciment, il est acheté dans des usines, il ne tient pas compte tout simplement de la saison. C'est-à-dire qu'on l'achète à tout vent, qu'il s'agisse de la saison des pluies, qu'il s'agisse de la saison des pluies, s'il n'y a pas de facteurs macroéconomiques qui interviennent dans la fixation de son prix, en tout cas l'environnement n'a aucune incidence sur les coûts des matériaux comme les ciments.
Voilà. Donc on retient que il est beaucoup plus avantageux de construire en saison sèche parce que là ces matériaux, le sable, le moellon, caillasse qu'on extrait du fleuve sont beaucoup plus coûteux, beaucoup plus moins chers que pendant la saison de pluie. Et maintenant par rapport au rapport entre la saison et la qualité, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Bon, en fait, pour ce qui est de la qualité de la construction, la pluie n'a aucune incidence sur la qualité de la construction. Parce que lorsque on a fait les études pour... on construit pour que ça soit beau, on construit pour que ça soit durable, on construit pour que ça soit une référence. Lorsque le concepteur, l'architecte, a donné tout son design pour que l'ouvrage reflète une certaine beauté, un certain aspect esthétique, plastique, agréable à tout le monde et plus particulièrement aux clients, la saison des pluies n'a généralement pas aucune incidence sur la qualité de la construction.
Mais on a appris par exemple que il y a certaines dalles ou béton qui demandent d'être fait pendant la saison sèche qui peuvent être dérangées par la pluie.
Effectivement, j'étais dans le général, mais il y a des particularités, des exceptions. Alors, lorsque, d'une façon générale, la saison de pluie n'a aucune incidence sur la qualité de la construction, mais il y a des précautions qu'il faut prendre lorsqu'on construit en saison de pluie. Il y a généralement les sables. Lorsque le sable est mouillé avant son utilisation, il ne donne pas un résultat escompté. C'est pour dire qu'il faut prendre des précautions, par exemple, pour bien sauvegarder les sables, c'est-à-dire généralement acheter des bâches, les couvrir à tout moment parce que il peut pleuvoir la nuit et la pluie peut imbiber tout ce qu'il y a comme sable sur chantier. Alors même si le jour suivant a une atmosphère favorable, en tout cas il n'est pas recommandé de construire avec ces sables-là parce que c'est un sable mouillé toute la nuit et par conséquent il ne donne pas le meilleur de lui-même du point de vue de la qualité. Donc là il y a une précaution généralement à prendre quand il s'agit de sable. Il y a aussi des précautions à prendre lorsque on a prévu d'écouler une dalle. Vous savez, le coulage d'une dalle n'évolue pas de pair avec la pluie. C'est ainsi qu'il est recommandé de penser aux prévisions météorologiques. Je ne veux pas faire la publicité ici des chaînes de télévision ou des radios qui donnent de meilleures prévisions, mais le concepteur doit avoir l'oreille attentive aux prévisions météorologiques lorsqu'il a projeté le coulage d'une dalle assez importante les jours suivants. Parce que vous pouvez commencer le mélange, commencer le coulage d'une dalle à 8 heures par exemple, sans tenir compte qu'aux environs de 10 heures, la météo prévoyait une journée pluvieuse. Et lorsque la pluie a commencé, en tout cas, sachez que vous avez raté le coulage de cette dalle-là. Elle va subir beaucoup de désagrégations et par conséquent, son comportement ne sera pas favorable à la qualité de la construction. Donc, vous comprenez que prise à la volée comme ça, j'ai cité les sables, j'ai cité les coulages d'une dalle. On peut aussi aller beaucoup plus en profondeur pour voir quels sont les matériaux, ou plus sont, quels sont les ouvrages qui ne peuvent pas évoluer ensemble avec la saison de pluie, par exemple. Mais il y a aussi des ouvrages qui sont mieux exécutés que quand nous sommes pendant la saison de pluie, pour pouvoir comprendre comment ces ouvrages se comportent. Je prends l'exemple, lorsque je fais détoller une maison.
Oui.
On a fait la fondation, on a construit. Maintenant, on a fait la charpente. Maintenant, il faut toller la maison. L'ouvrage de tollage d'une maison est mieux venu qu'en saison de pluie. Parce que lorsque vous avez tollé et qu'il y avait une ratée quelque part d'un clou et qu'un trou, un tout petit trou est resté,
oui,
vous n'aurez pas décelé ce trou-là s'il n'y a pas eu de pluie.
D'accord. De Chongandou, je reviens à vous dans quelques instants, le temps d'accueillir Christian qui nous appelle des Kananga. Bonjour Christian.
Oui, bonjour Jeudi et bonjour l'invité.
Quelle est votre question?
Oui, ma question est tout juste de savoir parce que la maçonnerie ou bien la construction c'est mon métier. C'est ce que tu es en train de faire même pendant que vous êtes en train de se passer votre émission.
Ok.
La question est de savoir quelles sont les précautions à prendre. Mais quand l'invité est en train de parler, il ne dit pas, il ne définit pas ces précautions-là. Il peut nous éclaircir au moins. Alors, quelles sont ces précautions? C'est-à-dire, par exemple, si c'était une dose, il dit vous prenez 2 quinines, 3 comprimés de ça. Alors, ça nous permet maintenant de savoir ce que nous pouvons faire parce que nous sommes en train de construire.
Qu'est-ce que vous êtes en train de construire maintenant?
Oui, je suis en train de construire une maison, et donc associée à la clôture, quoi. Une maison annexée à la clôture.
Mais l'invité a dit tout à l'heure que, par exemple, il faut protéger les sables parce que si c'est mouillé par l'eau de pluie, ça risque de ne pas, on risque de ne pas bien faire le travail. Il faut couvrir avec une bâche.
Vous voyez, ça c'est bien. Maintenant, si nous sommes en train de faire la maçonnerie, est-ce qu'il faut d'abord couvrir toute la parcelle pour s'épargner à des pluies, ou bien quelles sont les précautions à prendre alors pour protéger, par exemple, des maçonneries que nous sommes en train de faire en moellon tout comme en brique.
Bien, merci. D'accord. Deschongandou.
Oui, je voudrais recadrer les choses. Mon collaborateur maçon, collaborateur dans une certaine mesure, parce que nous sommes des partenaires.
Oui.
Alors, je voudrais qu'on ne confonde pas les précautions et les dosages. Là, nous sommes dans les aspects techniques lorsqu'il parle des dosages. Alors, je ne voudrais pas, sur les antennes, donner les dosages parce que je risque de donner des très fausses informations. Les dosages tiennent compte de la destination, par exemple, de l'ouvrage. Il y a certaines dalles qu'on peut doser à 350 kg par mètre cube. Il y a certaines dalles qu'on peut doser à 300 kg par mètre cube. Alors ici, il serait très imprudent de ma part de dire que non, il faut doser une dalle à autant de kilogrammes par mètre cube. Il faut doser les mortiers à autant. Tout est fonction de la destination. Et généralement, c'est prévu par les concepteurs en complicité avec l'ingénieur lorsqu'il s'agit d'un ouvrage quelconque. Mais ici, je donne des précautions d'une façon générale. J'ai cité par exemple les cas des sables qu'il faudra généralement couvrir la nuit lorsque on a quitté les chantiers parce qu'on ne sait pas quel temps il va prévoir la nuit et qu'il faudra pas que le matin on soit surpris par tout un sable mouillé, même si le jour est bon, en tout cas ça fausse travaux étant donné que le sable c'est un matériau qui n'est pas bon d'être utilisé lorsqu'il a absorbé une certaine quantité d'eau de pluie. C'est un cas par exemple. Il a fait allusion au mur en élévation, comment il faut les laisser, bien sûr. Par mesure de prudence, lorsque des panneaux ne sont pas encore consolidés par des colonnes, il faut prendre des précautions de les couvrir, même avec des couvertures, des emballages de ciment, pour que les pluies, de manière verticale, ne puissent pas avoir un certain impact sur les blocs. Évidemment, si les blocs sont de bonne qualité, cet impact est vraiment infime, insignifiant. Mais si ce sont des blocs, par exemple, dans les milieux ruraux, on construit généralement avec des blocs en terre stabilisés, c'est-à-dire le mélange de l'argile avec une faible composition de ciment pour sortir des blocs en terre stabilisés. Et là, généralement, ça ne supporte pas une forte pluie. Alors, chaque fois, généralement, lorsque on a arrêté de construire, il faut prendre les précautions de couvrir les murs en élévation avec des emballages de sachets.
Voilà, avec des emballages de sachets parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la pluie va tomber. Quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on construit en saison des pluies? Deschongandou, architecte, est notre invité. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94.
Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
Quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on construit en saison des pluies? Des Chonganou, architecte et notre invité. Nous avons en ligne Rousseau de Matadi. Bonjour.
Bonjour et bonjour à l'invité.
Quelle est votre question, Rousseau?
Bon, moi, j'ai une préoccupation. Je demande à l'invité, supposons que quelqu'un commence à construire sa maison au mois de juillet. Et la maison fait, par exemple, 6 ou 7 ans. Donc, cette maison a fait des moments de pluie et de la saison 16. Quel peut être l'impact à la fin de cette maison, car elle a raconté plusieurs fois des pluies et des saisons 16?
Merci. La construction a duré 7 ans?
Oui, 7 ans, depuis qu'elle a commencé.
Mais pourquoi ça a pris trop de temps comme ça?
Bon, les moyens. Parfois, on construit des lignes 3, 4, on s'arrête. Après 2, 3 mois, on recommence. Au niveau des fenêtres, on coule les bétons. Donc, ça a pris vraiment 6 ou 7 ans. Quel peut être l'impact? Mais la maison, c'est terminé. Mais il y aurait des impacts à long à cause de ces pluies-là ou comment?
D'accord. Deschon Gadou.
Bon, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, qu'une construction optimale suppose un délai. C'est-à-dire que lorsque les clients ont pris langue avec son architecte et qu'ils ont commencé à raisonner, à réfléchir sur le projet, il est vrai qu'on a donné un délai à ces projets-là. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on construit, on commence, nous sommes aujourd'hui au mois de septembre 2016, et puis on est censé finir au mois de septembre 2019. Donc c'est une construction qui va nous prendre 2 ans. Dans les calculs, dans les estimations de l'architecte, il tient compte d'autant de saisons de pluie qui vont intervenir, d'autant de saisons de sèche qui vont intervenir, et il est conséquent dans l'élaboration de son devis. Il sait qu'il y aura des moments où les coûts des matériaux vont coûter légèrement cher par rapport à certains autres moments, à certaines autres périodes, et il donne ces éléments-là dans son devis. Ce qui fait que lorsque le projet est bien étudié, on sera dans les coûts. Mais si on sort dans les coûts, il faut dire que ça, ce n'est plus un projet, ça, ce sont des opérations. Et généralement, ça échoue. Ça échoue sur le plan financier, c'est-à-dire qu'on se retrouve en train de dépenser beaucoup d'argent par rapport à l'enveloppe qu'on avait prévue. On se retrouve en train de détériorer plusieurs fois la qualité de l'ouvrage. Pourquoi? Parce qu'on fait des opérations. Ce n'est pas normal de dire que, écoutez, j'ai construit, je m'arrête au niveau des quatrièmes rangées, et puis je cherche des moyens, je fais faire des fenêtres, et puis quand j'aurai réuni, je vous fais revenir. Ça, c'est pas un projet. On n'est pas architecte pour des opérations, on est architecte pour des projets. C'est-à-dire que vous dire quand est-ce que vous allez commencer, quand est-ce que vous allez finir, vous allez mettre quels moyens et je vais produire quelle qualité d'ouvrage.
Oui. Bien, nous avons en ligne Adriana de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel. Bonjour aussi à l'architecte Geshu Ngandu. Avant d'abord de poser ma question, j'aimerais dire que, comme ici chez nous, je peux dire que mon papa trouve mieux toujours pendant la période pluvieuse. C'est pour cela qu'il a toujours eu l'habitude de travailler pendant cette période, mais nous, on a toujours été contre. Si on fait, l'invité a dit quelque chose dans l'introduction, qu'il faudrait aussi être sûr des météos, je ne sais pas moi. C'est ce que papa lui faisait. Mais je me rappelle les jours où on faisait les paiements dans notre parcelle. C'était le même cas pour eux. Il était mieux informé que ce jour-là, il n'y aura plus la pluie. On était là tout, je peux dire content, mais d'un moment à l'autre, là, quand les mamans sont travaillées, c'était presque toute la parfaite là, lui ne s'est même pas préparé pour s'il y aura la pluie. C'était donc comme ça, mais d'un moment à l'autre, il y avait une forte pluie. Et on avait tout perdu, même aujourd'hui, si j'ai regardé le parfait dans notre parfait, ce n'est même pas dans un bon état. Et c'était comme ça, on avait perdu. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que vous avez parlé de météo ou quoi? Et ma dernière question, j'aimerais aussi poser à notre invité. Lorsque vous collez une béton pendant la période pluvieuse, comment faire pour... vous pouvez nous donner juste des précautions par rapport à ça? Merci beaucoup.
Bien, lorsqu'on coule le béton pendant la saison des pluies, qu'est-ce qu'il faut observer comme précaution? Deschon Gandou, vous avez la parole.
Oui, merci pour la préoccupation. Je crois que Elle doit avoir trouvé déjà, de par les explications que j'ai données, la réponse à un certain nombre de ses préoccupations. Je parlais tout à l'heure des prévisions météorologiques, c'est-à-dire l'architecte ou l'ingénieur qui est sur un projet doit être très attentif aux prévisions météorologiques lorsqu'il projette des ouvrages assez importants pour lesquels la, n'est pas la bienvenue. Les cas de papa, c'est-à-dire que elle a si bien dit, papa n'était pas attentif aux prévisions météorologiques, ou plutôt, il a été mal renseigné. C'est pour cela que j'ai nuancé mes propos, sans pour autant vouloir faire la publicité de certaines radios, chaînes de télévision. J'ai dit qu'il faut se fier aux prévisions météorologiques les plus fiables, c'est-à-dire que nous connaissons tous de radios, ou plutôt des chaînes de télévision qui donnent des prévisions météorologiques beaucoup plus exactes. Ça, c'est une grande précaution à prendre, mais il faut pas oublier que dans tout bidier, dans toute prévision, on prévoit toujours une certaine marge des imprévus. Lorsque vous avez été attentif aux prévisions, lorsque vous avez pris toutes les précautions, en fait, l'indésirable peut arriver aussi. C'est pour cela qu'on va recourir aux imprévus pour pouvoir corriger ce qui est arrivé, pour pouvoir réparer les ratés.
D'accord. Et elle a parlé aussi de comment couler le béton pendant la saison de pluie. Avant de reprendre à cette question, on va accueillir Arsène de Dar es Salaam en Tanzanie. Arsène, bonjour et quelle est votre question?
Bon, en fait, j'ai un autre invité concernant les sujets pour la construction, comment on peut construire dans des saisons de pluie ou bien saisons sèches. Normalement, dans notre pays, bon, nous sommes en train de sentir... Bon, nous, la jeunesse, nous sommes en train d'entrer pour la classe moyenne. Mais quelque part, on doit privilégier aussi pour ceux-là qui sont dans des milieux ruraux, par exemple, les Moinga, Shabunda, Walungu, Mubumbano, Kanyola, tout ça, ainsi de suite. Nous nous rendons compte, bon, il y a les cimenteries de Katana. Aujourd'hui, à Bukavu, un sac de ciment coûte 18 dollars. Et ici, même à Tanzanie, un sac de ciment coûte 7 dollars. Et pourquoi notre pays a autant de gisements pour fabriquer ça, et ça va privilégier la jeunesse pour faire un bon développement? Est-ce que le seul ingénieur, il ne pouvait pas créer une association, ou bien comme il est proche du pouvoir, il ne pouvait pas faire une politique pour que notre pays, nous n'ayons pas encore la possibilité de tirer les ciments ici à Tanzanie?
C'est Arcel, ça la question. Arcel, moi je n'ai pas dit qu'il est proche du pouvoir, j'ai dit qu'il est architecte. Nous tenez-vous cette information. Merci d'avoir appelé. Deschamps Gandou, vous avez la parole.
Merci, je voudrais marteler, je ne suis pas plus proche du pouvoir. Lorsqu'on intervient ou qu'on vulgarise un métier, cela n'est pas synonyme d'être plus proche du pouvoir. Je suis un citoyen congolais et pris des soucis de faire partager l'information sur l'art de bâtir à une grande partie de la population pour qu'un jour cette république, nos villes deviennent beaucoup plus belles, beaucoup plus attrayantes. Ça, c'est une parenthèse.
Oui.
Alors, je reviens à la préoccupation, mais vous savez, il y a une chose. Il ne faut pas qu'on reste figé dans la démarche de la construction pour se dire qu'on doit toujours construire avec des ciments. Non, négatif. Dans le milieu rural, par exemple, il y a des matériaux qu'on sait trouver facilement comme de l'argile. Avec de l'argile, on peut produire des briques. Et les briques, on va recourir au ciment juste pour les mortiers. Cela suppose qu'on a une faible quantité de ciment qui entre en ligne de compte d'une construction. Et les briques ne sont pas non moins durables par rapport au bloc de ciment. Mais seulement, nous restons stéréotypés à l'idée selon laquelle tout ce qui est durable, c'est ce qui est construit rien qu'avec les ciments. C'est pour dire à l'ami ou plutôt à l'intervenant de tout à l'heure que on peut cogiter l'esprit, on peut en fait bouger le ménage pour arriver à trouver des solutions palliatives lorsqu'il s'agit de construire dans un milieu donné. Donc la construction est aussi, le choix des matériaux est aussi fonction de l'environnement dans lequel on construit. Il n'est pas dit qu'il faut toujours construire avec des fondations à moellons, il faut toujours construire avec des blocs de ciment, il faut toujours couvrir avec des tôles. Non, on peut voir que non, à la place, comme on sait, on a des difficultés à accéder au ciment, qu'est-ce que nous pouvons utiliser comme matériaux de compensation? On peut raisonner comme ça sur toute la ligne de la construction et arriver à produire aussi un ouvrage beaucoup plus réussi.
Voilà. Et revenons à la question, deuxième question d'Adrienne qui a dit les précautions à observer lorsqu'on veut couler le béton, un béton pendant la saison des pluies.
La grande précaution, parce que c'est qui fait rater le dallage ou ce qu'elle appelle le béton. En fait, l'élément le plus important qui fait rater un ouvrage pareil, c'est la pluie. C'est pour ça que j'ai demandé qu'il faut être attentif aux prévisions météorologiques et, par mesure de prudence aussi, avoir des bâches pour que lorsqu'on est surpris, on peut au moins sectionner la partie qui est déjà coulée et la protéger, protéger les mortiers et les mélanges qui se trouvent déjà sur la piste, attendre le temps que la pluie va prendre pour voir si c'est possible de rattraper l'ouvrage sans pour autant connaître beaucoup de désagréments. Donc la précaution la plus importante à prendre en cas de coulage d'une dalle, c'est d'avoir l'œil attentif aux prévisions météorologiques.
Bien, nous avons en ligne Sadi de Kinza Mvouete, dans le Congo central. Sadi, bonjour.
Oui, bonjour.
Quelle est votre question?
Oui, merci beaucoup, je vous salue, salut l'invité. J'ai peut-être une ou deux questions. Je vais commencer par la première là. Je voulais demander la question à votre invité. Qu'est-ce qui influence que nous ici au Congo, précisément à Kinshasa, nous n'avons pas des immeubles à grande hauteur vraiment importants? Parce que jusqu'à ce jour, nous avons que des immeubles par rapport à la limite que l'homme blanc laissait. Et ceux qui sont conçus aujourd'hui avoisinent seulement ces limites-là. Ça a un effet peut-être du sol ou du climat atmosphérique ou quoi que ce soit qui fait influencer ou c'est la compétence de nos architectes ou les moyens de nos hommes d'affaires qui influencent là au commun. Nous n'avons pas un immeuble, par exemple, à 50 étages ici. Pourquoi? Par rapport, nous avons certains pays sous-développés comme nous, mais on peut trouver ce genre d'immeuble. Ça m'a pris première préoccupation. Deuxième préoccupation, par rapport à la architecture, surtout je vois à Kinshasa, qu'est-ce qui fait qu'un architecte, je ne sais pas s'ils sont organisés comment, ils ont un ordre des architectes qui peut intervenir au commun, puisse accepter qu'on puisse construire un immeuble. Mais si vous voyez la situation géographique, et peut-être par rapport au climat, cet immeuble-là sera peut-être d'une vie très courte. Les immeubles, l'immeuble de l'ONATRA ou quoi que ce soit, ce sont des immeubles bientôt peut-être qui vont atteindre 60 ou 90 ans. Mais est-ce que nous serons capables d'avoir des immeubles que ces architectes-là construisent à la cité, peut-être de 3 étages, seulement 4 étages, mais qui n'a pas une certaine solidité comme ceux que les Blancs ont laissé? Ce sont mes deux préoccupations.
Merci. Deschongano.
Oui, merci. La qualité de l'audition n'était pas très très bonne. Je vais faire un effort de.
Ben, voilà. Ouais, il a dit ceci, sa première question. Pourquoi on n'arrive pas à construire des immeubles, des gratte-ciels par exemple, des immeubles avec 50 étages, comme ça se fait dans d'autres pays? Est-ce que cela est lié aux conditions climatiques ou il y a d'autres raisons?
Ok. Il n'y a pas de contraintes techniques ni des contraintes liées aux portances des sols qui empêchent que sur le sol congolais, on puisse ériger des immeubles de cette hauteur-là. Vous savez, la construction, c'est une affaire de gros sous. C'est-à-dire que construire pareil immeuble, cela suppose avoir beaucoup de moyens. Et lorsqu'on construit, il faudra pas construire seulement pour le plaisir. Il faut que le bâtiment qu'on doit construire puisse donner une certaine rentabilité. C'est bien beau d'avoir un immeuble au-delà des gratte-ciel. Mais pour quelle rentabilité? Est-ce que dans l'environnement économique actuel, avons-nous besoin des immeubles de cette hauteur-là? C'est ça, en fait, c'est que j'étais retourné comme question.
Voilà,
du point de vue sol, il n'y a pas de contraintes. Du point de vue compétence, nullement. Du point de vue qualité, non plus. Mais c'est seulement, il y a la rentabilité qu'un ouvrage doit produire. Est-ce qu'il est nécessaire pour le moment, chez nous, ici, de commencer à construire des gratte-ciels? Tant que, en parallèle, on sait que nous avons des déficiences en termes de logements qui est vraiment criant. Vous comprenez qu'il y a un choix à faire pour le moment. Il faut beaucoup plus donner priorité aux logements socio-économiques qu'à des ouvrages assez colossaux comme ça, pour lesquels la rentabilité sera d'efficacité nulle.
Voilà, et il dit hein, à l'époque les bâtiments construits par les à l'époque de, les Belges, ces bâtiments par exemple les immeubles de l'Onatra sont solides jusqu'à ces jours. Si on les compare aux immeubles construits actuellement à deux étages par nos architectes, mais qui ne durent pas trop longtemps. Alors il dit est-ce qu'il y a un problème au niveau des architectes, la qualité des architectes, la qualité du travail rendu?
Bon, vous savez, c'est par abus du langage que tout le monde se fait passer aujourd'hui, constructeur, architecte. Mais il faut savoir choisir le vrai, ceux qui ont déjà prouvé leur qualité, leurs compétences. Vous savez, devant l'absence de loi, tout le monde se fait passer aujourd'hui architecte, tout le monde se fait passer ingénieur. Un décorateur d'hier s'improvise sur un chantier. Un contremaître d'avant-hier s'improvise en conducteur des travaux, expert en ceci, en cela. Bref, nous avons un peu de tout. Nous n'avons pas un ordre d'architectes, nous avons une association, la Société des architectes congolais, qui milite pour l'avènement d'un ordre un jour, et avec ça, il y aura un peu beaucoup plus de contraintes. C'est ainsi que nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre, et une raison de plus pour que chaque fois régulièrement, je viens vulgariser ces concepts, moi et mes confrères, c'est pour que petit à petit, le message passe, et que les gens comprennent qu'il y a une certaine démarche à faire lorsqu'on veut avoir un ouvrage cohérent. Ce n'est pas seulement la population, c'est l'État aussi qui est notre partenaire par excellence. C'est des organismes, c'est des sociétés qui doivent comprendre que l'acteur principal, ou plutôt le partenaire par excellence qu'il faut avoir en face de soi lorsqu'on veut se lancer dans la construction, c'est le premier parmi les égaux, l'architecte.
Voilà. Nous avons en ligne Pichou de Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour la radio Capi et bonjour tous les auditeurs. J'ai des petites questions à poser à l'architecte.
Oui.
La première est celle-ci. Il venait de dire que tout ce qui est construit par les ciments est durable. Moi, je trouve que cette hypothèse est encore discutable. J'habitais à Kisangani, j'ai remarqué 60% des maisons construites par les Belges ne sont pas construites par des ciments. Il y a eu des briques cuites mélangées avec des pâtes et d'argile. Et maintenant, la chimie était la pâte d'argile avec un peu donc des déchets là d'alcool, de l'autocollant. Et maintenant qu'ils mettaient, maintenant ils faisaient des pâtes. Ils ont construit des maisons en étage. Et maintenant, il y a même des maisons construites depuis 1904 qui existent jusqu'à aujourd'hui. Oh, il y avait même pas intervention de ciment. Et comment est-ce qu'il peut toutefois affirmer cette hypothèse? La deuxième question est celle-ci. Dans une ville qui regorge qui est frappée par les climats tempérés, soit les climats équatoriaux, quelles hypothèses peuvent nous donner des différentes constructions selon les climats de chaque ville? Et la dernière question certaines remarques que j'ai remarquées aussi, qui fait assez que nos architectes n'arrivent pas à réussir, c'est suite à quoi? Prenons le cas de l'histoire liée à la construction des briques cuites. À la période des Belges, ils fabriquaient les briques cuites comment? Ils étudiaient la quantité d'argile, la quantité de sable pour créer un brique. Mais à notre époque, c'est pas ça. Ils trouvent les collines, ils commencent directement à fabriquer des briques. Ils ne tiennent même pas compte des quantités de sable, d'argile, et c'est ce qui fait des pas des ratés. C'est un peu ça. Merci beaucoup.
Merci. Deschongandou.
Merci, je voudrais rectifier quelque chose d'emblée. Je n'ai pas dit que tout ce qui est construit par les ciments est durable. J'ai plutôt dit qu'il y a une certaine mentalité qui est en train de rester figée dans l'esprit des gens, que tout ce qui est construit avec des ciments est durable. C'est pour cela que je fais allusion aux constructions dans les milieux ruraux où on peut recourir à des briques cuites et ne recourir au ciment que pour les mortiers des constructions. Donc je suis dans la même logique avec lui. Je me répète, j'ai dit qu'il ne faudrait pas considérer que le ciment est le matériau par excellence pour des constructions en dur.
D'accord. Alors il dit par rapport dans un milieu où il y a le climat équatorial, quel type de construction ériger?
Bon, vous savez, l'architecture est fonction aussi de l'environnement climatique d'une région. Lorsqu'on construit dans un milieu où il y a le climat où il neige, par exemple, on ne procède pas de la même manière que quand on construit dans un climat tropical. Donc, les constructions sont fonction aussi des climats qu'on trouve. Vous avez les cas, par exemple, dans des pays européens, vous avez des toitures où les combles sont utilisés et on aménage même certains locaux dans les combles. Et les combles sont presque pointus. C'est pour éviter que lorsqu'il neige, que le neige ne s'affaisse pas sur les toitures pour qu'à long terme, ça puisse commencer à les affaisser. Donc, on tient compte de cette façon de couvrir pour que lorsqu'il neige et qu'immédiatement, en fait, les grêles tombent sur à même les sols. Mais lorsqu'on on importe cette culture, cette façon de couvrir ici chez nous, dans un climat tropical, c'est qu'on n'a pas compris. Ça, c'est ce qu'on constate généralement. Nous avons des toitures qui sont presque verticales, j'allais dire, sans tenir compte de l'environnement climatique dans lequel on les construit. Donc, c'est pour dire que l'architecture, la construction est liée aussi au climat d'une région à une autre.
D'accord. Dieu merci, on va terminer avec Dieu merci de Manono. Bonjour, et quelle est votre question?
Bonjour, mon ami. J'ai deux questions. La première question est de savoir si il y avait le problème de l'essuie-main qu'on payait, qu'on utilisait avant. Mais on voit les maisons qui sont plus anciennes construites ici chez nous avec ce même ciment-là. Mais vous voyez, bon, c'est quand même très dur. Mais pour le moment, quand même vous payez les ciments, vous pouvez faire des mélanges de tout et tout. Mais vous voyez, quelques temps après, même si vous voulez couler le béton, ça ne peut pas faire beaucoup de temps. Maintenant, on se pose des questions sur le problème du ciment fabriqué présentement ou soit sur le mélange qui pose problème. Voilà pourquoi j'ai une question adressée à l'invité. Et pour couler un béton plus endur, il faut utiliser quelle quantité de sable et il faut utiliser quelle quantité de ciment. Ça, c'est la question. Et de deux, est-ce que cette pratique de verser de l'eau a de l'impact lorsqu'on veut couler le béton? Si ça a de l'impact, c'est comment, bon, combien de fois, c'est comment verser cette eau? Voilà, ça pose un peu des problèmes.
D'accord, merci Deschongano.
Oui, si l'intervenant a rencontré des cas de failles liées à l'utilisation du ciment, cela n'est pas un problème général, c'est des problèmes tout à fait particuliers liés soit à la qualité intellectuelle ou technique de la personne qui a conçu l'œuvre et qui est en train de la diriger. C'est des ratés. En toute société, dans toute corporation, il y a du bon et du vrai. Il y a du vrai et du mauvais, j'allais dire. Donc il ne faut pas considérer ça comme une situation générale. Mais vous savez, avec les nouvelles techniques d'évolution, avec les nouvelles techniques de construction liées aux technologies modernes, on est en mesure de construire des ouvrages beaucoup plus durables que dans l'ancien temps. Parce que la technologie, l'évolution de la science apporte toujours des éléments positifs dans les savoirs. Et lorsque ces éléments sont injectés dans les analyses ou plutôt dans la conception d'une construction, ça va être beaucoup plus longtemps que les anciennes constructions qu'on voit là. Alors, question des dosages, je l'ai dit tout au début de l'émission, c'est un terrain très glissant. Les dosages sont fonction de l'ouvrage. Les dosages sont fonction de la destination et qu'il serait très imprudent pour moi de pouvoir dire que non, il faut faire tel dosage sans pour autant connaître que cela est destiné à quel type d'ouvrage et à quelle qualité de la construction, par exemple. Donc, d'accord. C'est très imprudent.
Voilà.
Ça change entre les clients. Ça, c'est des problèmes techniques qui trouvent des solutions sur chantier et in situ.
Bien, on retient des choses que lorsqu'on construit en saison sèche, les matériaux, certains matériaux coûtent beaucoup plus moins cher qu'en saison de pluie. Et vous avez également parlé de lorsqu'on construit, il faut tenir compte des prévisions météorologiques. Et par rapport au rapport saison à temps, qu'est-ce que vous avez dit que les temps, disons le chronogramme peut changer en fonction des saisons?
Oui, ça c'était le troisième rapport, et malheureusement on a beaucoup plus parlé des deux premiers rapports qui nous ont pris du temps. Le troisième, je parlais de rapport entre la saison des pluies et les timings liés à la construction. Alors, généralement, la pluie est considérée comme un mauvais temps dans la construction. C'est-à-dire que lorsqu'il pleut, on arrête de construire. Et si au cours d'un mois, pendant les 26 jours d'une construction, vous avez 10 jours de pluie, c'est-à-dire qu'il y a déjà 10 jours de raté. Et c'est-à-dire que pour une construction qui doit vous prendre une année, vous avez 100 jours de raté dans une construction, c'est beaucoup. Ça a des incidences sur les coûts, ça a des incidences sur essentiellement sur les coûts. Parce que lorsque vous prévoyez de faire quelque chose pendant une année, que vous vous retrouvez en train de faire ça pendant une année et trois mois, il y a une incidence négative par rapport à l'argent quelque part. C'est pour cela que dans le protocole d'exécution, il est beaucoup plus recommandé d'avoir par exemple des hangars sur les chantiers pour qu'en cas de pluie, lorsqu'il s'agit par exemple de faire l'arrimage, les étriers, de faire des travaux de ferraillage, de ceci, de menuiserie, on peut le faire sous un hangar. Même s'il pleut, les ferrailleurs peuvent travailler, mais s'il pleut, certains corps de métier qui ne sont pas liés à la présence de la pluie peuvent travailler.
D'accord. Merci.
Les bâches pour couvrir les sables ont réduit le perte en prenant ce genre de précautions et c'est beaucoup plus fondamental.
D'accord. Merci Deschaux Ngandou, architecte. Bonne journée.
Merci à vous autant et bonne journée aussi.